Alors, d'abord poser le problème en introduction. Pourquoi renouveler la pensée critique? Renouveler la pensée critique parce que les caractéristiques, disons, des sociétés contemporaines se déplacent et que donc il y a aussi besoin de nouveaux outils par rapport à l'analyse de ces sociétés. C'est aussi parce que les anciens outils se sont routinisés et ont parfois permis de poser des questions, mais en même temps, en permettant de poser certaines questions, ont empêché que d'autres soient posées. Et c'est notamment ce qui a constitué sur les pensées critiques l'hégémonie pendant longtemps de ce qu'on appelle le marxisme, qui est une certaine famille de lecture de Marx, qui n'est pas exactement la diversité des fils qu'on peut tirer de Marx, mais qui est un découpage dans la diversité des fils qu'on peut découper dans Marx, qu'on appelle marxiste ou marxisme. Donc il se trouve que dans Marx et chez des auteurs marxistes, il reste toujours des éléments pertinents pour la critique sociale, mais que se pose la question de comment ces fils peuvent être approfondis, renouvelés, transformés, certains mis en cause par le développement de courants post-marxistes, que ce soit en philosophie ou en sociologie. Donc, affiner, déplacer, renouveler les pensées critiques, ces pensées critiques étant justement au carrefour du travail intellectuel et de l'action militante. La catégorie de pensée critique est à cheval sur les deux, sur des outils intellectuels qui peuvent être travaillés dans des milieux académiques notamment, mais pas seulement, et puis une action militante visant à transformer les choses. Donc affiner, déplacer, renouveler les pensées critiques, notamment par les sociologies contemporaines. Sortir aussi dans l'appréhension des sciences sociales d'un slogan gauchiste qui a beaucoup traîné après 68 sur sociologue égale flic, qui d'ailleurs était une mauvaise approche des effets même des sciences sociales, au sens où les gouvernants et les dominants se sont peu souvent intéressés aux rapports des sociologues, etc., contrairement à ce que pensaient les gauchistes d'après 68. Donc les sciences sociales contemporaines, il y a des secteurs des sciences sociales contemporaines qui ont une affinité avec la critique sociale. Et parfois peut-être, c'est par exemple le cas dans la sociologie de Bourdieu, des affinités plutôt avec les sensibilités libertaires de la critique sociale qui étaient plutôt marginalisées et dévaluées par l'hégémonie marxiste. Alors, les nouvelles sociologies, c'est un petit livre qui essaie de présenter des débats et des courants contemporains de la sociologie dans un nombre assez limité de pages. L'ancienne édition date de 95, la première édition, elle était très centrée sur le schéma de la construction sociale de la réalité. Justement, le sous-titre est « Construction sociale de la réalité ». Ça visait à montrer, alors qu'à l'époque, c'est-à-dire au début des années 90, on faisait un portrait assez pessimiste de l'état de la sociologie, émietté, sans dynamique, etc. J'essayais de montrer qu'il y avait un renouvellement dynamique à travers ce schéma constructiviste dans des secteurs qui n'étaient pas nécessairement convergents mais qui avaient des analogies. Ce schéma de la construction sociale de la réalité permettait en tout cas de dénaturaliser toute une série d'évidences dans le monde social, c'est-à-dire des choses qui nous apparaissaient naturelles et qui pourtant était le produit d'une construction sociale et donc avait fait l'objet n'avait pas des caractéristiques naturelles mais avait fait l'objet d'un processus social de naturalisation, c'est-à-dire était peu à peu apparu comme naturel pour les gens. Alors, dans ce climat, en fait, le livre a eu un certain succès dans le milieu académique. D'ailleurs, comme manuel pour les étudiants des premiers cycles, mais aussi dans les troisièmes cycles et dans les milieux de la recherche, parce qu'il posait, disons, autrement la question des rapports entre les différents courants qu'antérieurement, et donc pouvait donner des idées aussi pour la recherche, ce qui montre qu'un outil pédagogique n'est pas forcément opposé à la recherche, comme on croit souvent qu'il y a une segmentation entre les deux, pédagogie et recherche, comme deux pôles complètement séparés. Et puis il a eu une série de traductions, six traductions dans des langues différentes, et notamment en russe et en chinois, donc qui a donné un certain écho à la question. Alors pendant longtemps, on m'a demandé de refaire une nouvelle version, et puis les années passées, donc finalement il s'est passé 12 ans, et j'en ai fait une nouvelle. Donc c'était nécessairement, ça devait au bout de 12 ans être déplacé, transformé. Le schéma général, je peux dire comme introduction, le schéma général. C'est un peu déplacé. Le sous-titre, maintenant, c'est entre collectif et individuel. C'est-à-dire le schéma de la construction sociale de la réalité n'est plus devenu le centre du livre, mais une des possibilités d'un schéma qui me semble plus fondamental, que j'appelle relationaliste. C'est-à-dire que souvent, dans la science sociale, on a une polarité entre les sociologies qui vont aborder les phénomènes sociaux à partir de l'agrégation des actions individuelles, ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. On part des unités individuelles, et le social, c'est l'agrégation des unités individuelles, représentée par exemple en France par Raymond Boudon, par des sociologies plus, on va dire, plus libérales, par ce qu'on appelle aussi l'école du choix rationnel. Et puis, ce qu'on va appeler le pôle holiste, le holisme, c'est ceux qui, au contraire, font prédominer le tout sous les parties, c'est-à-dire qui partent de la société comme quelque chose, un ensemble irréductible à la somme des parties, et donc qui l'ensemble social qui contraint les unités individuelles. Il me semblait que ce qu'il y avait d'intéressant dans les nouvelles sociologies et dans certaines sociologies anciennes, au-delà de cette polarisation, c'était au lieu ni de partir de l'individu, ni de partir de la société, des institutions collectives, mais partir des relations comme élément premier. Les individus étant des choses fabriquées avec des relations, et les structures collectives étant fabriquées aussi avec des relations. Ces relations ont pu être pensées dans l'histoire de la sociologie de manière diverse. Marx parlait de rapports sociaux. Durkheim parlait de solidarité, forme de solidarité. Gabriel Tarde de dynamique d'imitation. Georges Simmel d'action réciproque, plus près de nous, Norbert Elias d'interdépendance, Bourdieu, plus près de nous encore, de champ comme espace de relation. Mais ce qui est important, c'est les relations. Les sociologues interactionnistes insistent sur les relations interindividuelles, dans les face-à-face entre les personnes, comme Goffman. Bon. Il me semblait que ce schéma était plus important, et que l'idée de la construction sociale de la réalité était un type de vocabulaire à la disposition, et pas le seul, à la disposition de ce schéma. Donc il s'est déplacé un peu sur le pôle relationaliste, le livre, et puis évidemment il a intégré des nouveaux champs de recherche, par ordre décroissant d'importance. Il s'est intéressé au développement de la sociologie économique, qui est quelque chose qui s'est développé ces dernières années en France, d'ailleurs, qui fait du marché, de l'entreprise, etc., un objet de la sociologie, pas simplement de l'économie, et donc comme aussi un processus de construction sociale. Il a intégré aussi quelque chose qui avait été loupé la première fois, c'est-à-dire mais qui s'est développé depuis, qui est les études féministes, et notamment sous l'effet des gender studies américaines. Donc c'est quelque chose qui est développé, qui n'existait pas dans la première version. Et puis surtout, le dernier chapitre est assez nouveau, puisque il présente toute une série de travaux autour des notions d'individualité et d'individualisme, qui n'étaient pas l'entrée, disons, qui était privilégiée dans la première version. Ce qui fait que la structure est plus, me semble plus cohérente, c'est-à-dire il y a un chapitre qui va des structures sociales aux interactions avec des gens comme Elias ou Bourdieu. Il y a un chapitre qui va des interactions aux structures sociales avec des courants comme l'ethnométhodologie, la sociologie des sciences et des techniques de Bruno Latour, etc. Et puis, il y a un chapitre sur les groupes sociaux, la construction des groupes sociaux, et puis il y a un chapitre sur les individus, donc ce qui est, il me semble, plus équilibré. Alors, ça c'est la structure globale, et je vais essayer de rendre compte de ça. Plutôt que de présenter les auteurs comme on pourrait le faire de manière académique, j'ai choisi de faire un peu une illustration. Puis en troisième, deux illustrations, puis dans le troisième temps, je reviendrai sur la postface qui est propre à l'édition de 2007. Alors, ça va vous permettre de présenter, enfin, ceux qui ne sont pas forcément familiers de ces courants, des éléments de ces nouveaux courants, en quoi ils renouvellent la pensée critique. La première illustration, en fait, je vais faire une lecture un peu, on peut dire, sauvage, improvisée, donc c'est une illustration, c'est pas une vraie sociologie, du livre de Yasmina Reza, L'aube, le soir et la nuit, qui est consacré à la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, que cet écrivain a suivi dans toute sa campagne. Alors, il y a eu beaucoup de choses écrites sur ce livre, mais pas tellement un angle sociologique, et souvent, ce qui a été dit du livre dans les médias, il y a eu énormément de papiers, c'est en fait la critique superficielle. Qui d'ailleurs, la critique superficielle est intégrée dans les médias aujourd'hui. Première critique, c'est la critique des médias. C'est-à-dire, c'est un coup éditorial. Et donc, il y a beaucoup de papiers qui ne disent rien du livre, mais qui disent c'est un coup éditorial. De la maison d'édition, Flammarion, en lien avec Sarkozy, Yasmina Reza, etc., etc. Et donc, on ne s'intéresse pas au contenu du livre. On dit simplement que c'est un coup publicitaire. Et donc, ce qui est supposé invalider l'ensemble de la démarche. Mais on ne sait pas trop qu'est-ce que nous dit le livre sur la politique. Le deuxième type de critique, c'est une critique plus politique au sens, mais politique superficielle au sens des professionnels de la politique, en disant c'est quelqu'un qui tire les pompes à Sarkozy, donc c'est un élément dans la stratégie politique de Sarkozy. Voilà. Ça, c'est le deuxième, on a vu ça. Pierre Marcel dans Libération a accumulé les deux critiques, je pense, c'est celui de ceux qui a associé les deux. Ça, c'est la critique simpliste, et d'ailleurs, on peut voir que une certaine forme de critique superficielle des médias ou de la politique est intégrée dans les médias et dans la politique. C'est un élément à prendre en compte, quoi, à mon sens. Alors, si on va un peu plus loin, et si on veut savoir ce que nous dit le livre, eh ben, il faut déjà savoir que c'est une traduction. Le concept de traduction est utilisé par Michel Calon et Bruno Latour dans la sociologie des sciences et des techniques. C'est-à-dire, c'est une façon de faire passer un type d'expérience, de discours, etc., dans un autre domaine de discours et d'expérience. C'est-à-dire, une observation du jeu politique dans le domaine littéraire. Bon, normalement, c'est présenté comme une œuvre littéraire, bon, pas comme un livre politique. Donc, il y a une traduction qui obéit, alors là, on va faire appel à Bourdieu, aux règles du champ littéraire. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement un produit politique adapté au champ politique, mais qui obéit aux critères du champ littéraire, pour faire œuvre littéraire. C'est ça beaucoup qu'a défendu Yasmina Reza quand elle a été interrogée sur le livre. Donc, le monde social, alors on revient à Bourdieu, le monde social est composé de différents champs, espaces de relations, avec des intérêts propres, avec des logiques propres, avec des registres propres, et quand on passe d'un champ dans un autre, on n'a pas exactement la même logique. Bon. Et donc, ça suppose des traductions. Donc c'est une traduction de choses observées dans la vie politique, dans le domaine littéraire. Et puis c'est aussi, il faut prendre en compte l'idée de l'interaction. C'est qu'il y a un narrateur, Yasmina Reza, écrivain, et puis il y a le personnage principal, Nicolas Sarkozy. Mais le livre, c'est l'interaction entre les deux. Et donc c'est une interaction sociale aussi, ce livre. C'est pas simplement quelque chose qui est comme ça, pas un auteur, c'est une interaction entre un homme politique et un écrivain. Alors, cette interaction sociale, elle a des coordonnées sociales. Il y a des éléments dans leur parcours réciproque qui font qu'ils ont des éléments, on va parler comme Bourdieu, d'habitus ou d'inconscient de classe proche. Et ça se voit à toute une partie du livre intéressante, c'est que tout ce qui concerne le luxe et la richesse paraît évident, non remis en cause. D'ailleurs, ceux qui, parfois, il y a des manifestations, etc., ou des gens qui critiquent, etc., et c'est vu comme des braillards, bon, comme des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'il y a une évidence, il y a un inconscient de classe commun entre Sarkozy et Yasmina Reza de l'évidence du luxe. Bon. Quelque chose qui nous dit quelque chose sur les personnages, mais qui n'est pas de l'ordre de l'explicite, mais de l'implicite, dans leur logique. Mais quand on dit qu'il y a un inconscient de classe commun, un inconscient social commun qui structure un peu le livre, en même temps, la sociologie nous apprend que ce n'est pas multidimensionnel l'espace social. J'ai dit tout à l'heure, il y a différents champs. Et comme dit Bourdieu, il y a différents capitaux. Or, il se trouve que Yasmina Reza et Nicolas Sarkozy ont des éléments de capitaux communs dans le domaine du capital économique, on peut dire, mais qu'ils sont différents sur d'autres types de capitaux. Notamment, on a d'un côté le capital politique et de l'autre le capital culturel. Et c'est là les éléments intéressants dans leur interaction, notamment. C'est aussi les différences. Et c'est là où il y a des tensions dans le récit qu'en fait Yasmina Reza. Des tensions, notamment, Sarkozy est vu du point de vue d'une haute légitimité culturelle, d'un haut capital culturel par un écrivain. Et donc souvent, c'est d'ailleurs là où il apparaît le plus sympathique dans le livre, il apparaît comme un plouc. Un plouc qui aime Johnny Hallyday et Sardou. Bon. Un plouc qui aime les vedettes, qui aime le foot, qui aime le rugby, etc., etc. Donc, quelqu'un qui n'a pas le sens de la hauteur culturelle, qui ne comprend rien à l'art contemporain, qui ne comprend pas grand-chose à la littérature, etc., etc. Donc, sans arrêt, il y a des rappels à l'ordre sociaux de Yasmina Reza vis-à-vis de Sarkozy. Comme c'est faute de goût culturel. Ça, c'est un élément intéressant, quoi. C'est Sarkozy, le beauf, le plouc. Bon. Mais il y a un autre aspect, c'est que Sarkozy, c'est capital politique. Et l'idée, donc, du rapport au pouvoir, de la capitalisation dans le rapport au pouvoir. Et là, on a une relation inversée. C'est-à-dire qu'on a Yasmina Reza profane de la politique, qui admire l'homme politique qui développe un certain rapport au pouvoir, qui a une forte ambition, etc. Et donc toutes les caractéristiques du capital politique. Et donc là, elle est plutôt toute petite, et Sarkozy est valorisé par rapport à elle, sa petitesse. Donc on voit bien que du point de vue du rapport du capital culturel, elle est au-dessus, elle le juge sans arrêt sur ses fautes de goût culturel. Et du point de vue du capital politique, elle est en situation d'admiration. En situation d'admiration, ce qui fait qu'elle a conduit à naturaliser un certain type de capital politique qui est lié à la professionnalisation politique, c'est-à-dire la définition de la politique comme étant surtout liée à une ambition de pouvoir personnel. Or, d'autres définitions de la politique ont existé historiquement, par exemple l'idée de la participation à une action collective de transformation sociale. Ça, c'est une définition de la politique qui n'existe pas dans le livre, qui est ridicule même. La seule définition de la politique, c'est la question de l'ambition du pouvoir. Elle est naturalisée dans cette fascination pour le capital politique et l'ambition et les jeux tactiques et stratégiques de Sarkozy. Donc on a là à la fois des éléments d'inconscient de classe commun et puis des tensions entre des types de capitaux différents. Donc on rentre déjà dans des éléments de ce qu'apporte la sociologie contemporaine par rapport à une analyse simplement marxiste du monde social. Alors, on va rentrer un peu plus dans la notion de champ, parce que ça doit besoin de se traduire en termes littéraires. Parce que si je dis c'est un plouc, ou si je veux dire d'une certaine façon c'est un nouveau riche, parce que le côté quand on dit nouveau riche, c'est il a le capital économique, mais il n'y est pas depuis longtemps dans la maison, et donc il n'a pas tout à fait droit à la légitimité d'être dans la maison des riches. Bon. Notamment parce que c'est un plouc au niveau culturel. Bon. Donc un nouveau riche qui aime les belles voitures, etc., etc., qui fait des fautes de goût sans arrêt. Donc c'est un nouveau riche, mais Et puis, en même temps, il y a l'admiration pour l'homme de pouvoir. Ça doit se traduire dans le registre littéraire, ça. Parce que c'est pas autre, ça ne suffit pas à faire une œuvre littéraire, bon, ces deux positions. On a soit une forme de racisme culturel classique, soit une admiration classique de fans pour des hommes politiques, et donc on ne va pas dire c'est un grand écrivain. Bon, donc ça doit se transformer dans le registre proprement littéraire. Ça se transforme comment ? Par ce que j'appellerais une transformation de Yasmina Reza en midinette heideggerienne. Bon. Alors c'est quoi midinette heideggerienne ? C'est elle va finir par trouver dans le rapport au pouvoir de Sarkozy ou dans le rapport de Sarkozy au pouvoir un rapport fondamental, comme diraient les heideggeriens, dans les relations entre l'être et le temps. Et donc, la vie de Sarkozy, c'est une course contre le temps, qui tout le reste ne compte pas, en fait, c'est l'être qui est au cœur de ça, et c'est la course contre le temps, et pour éviter, pour oublier la mort de l'être, à la fin. Donc on a une transformation en midinette heideggerienne, midinette parce que c'est une fan d'une politique classique, mais qui transforme ça dans un registre proprement littéraire, avec une solennité philosophique même. Et donc on a cette transformation de Yasmina Reza en midinette heideggerienne. Alors le livre ne nous dit pas que ça si on le décrit du point de vue de l'apport des nouvelles sociologies sur Sarkozy. Il nous dit des choses aussi sur d'autres débats des sciences sociales qui sont abordés dans le livre. Il nous dit des choses sur la tension pluralité de la personne, unité. Bon, c'est un des débats actuels des sciences sociales, de savoir dans quelle mesure chaque individu est formé de matériaux plus ou moins cohérents ou éclatés. Bourdieu, avec sa notion d'habitus, a plutôt penché pour une vision plutôt unifiée de la personne, la personne étant unifiée à partir d'un inconscient social. Après Bourdieu, d'autres auteurs ont davantage insisté sur la pluralité. Alors, pluralité des dispositions, ça va être le travail de Bernard Lahir, qui va insister sur ce qu'il appelle l'homme pluriel, chaque individu étant doté d'une multiplicité de dispositions, les dispositions étant des mini-inconscients sociaux, mais plus éclatés, pas unifiés autour d'un axe simplement. Et puis les travaux comme ceux de Luc Boltanski et Laurent Thébault dans ce qu'on appelle la sociologie pragmatique vont davantage insister sur la pluralité des compétences qui vont être utilisées par un acteur, une personne. C'est deux choses différentes, à disposition et compétences. Disposition, c'est une tendance qui est répétée par une personne qui n'est pas nécessairement consciente. Par exemple, la disposition de quelqu'un qui est issu d'un milieu populaire et qui va rentrer dans un milieu plus culturellement légitime à se sentir illégitime dans ce milieu. Ce malaise, cette tendance à se sentir illégitime, elle va être là tout le temps. C'est une tendance irrépressible, inconsciente. Bon. La compétence, c'est par exemple, j'ai appris à jouer du piano ou j'ai appris à jouer au football. Donc c'est la possession d'un savoir-faire. C'est très important dans les débats sociologiques, ces deux axes, puisque la disposition va insister sur une dimension déterministe de l'action, où les individus sont largement dépendants de choses qu'ils ne maîtrisent pas et qui sont liées à leur socialisation. La compétence va donner une plus ou moins grande autonomie aux individus pour manipuler des savoir-faire. Il me semble que les deux axes sont très importants. L'erreur, c'est de ne traiter que des compétences en oubliant les dispositions, que peut pouvoir faire la sociologie pragmatique de Boltanski et Thébault. L'autre erreur, c'est ce que fait la sociologie dispositionnelle, que ce soit celle de Bourdieu ou de Bernard Lahir, c'est de considérer que les compétences, ce n'est qu'un effet plus ou moins superficiel des dispositions, c'est-à-dire dépendant des dispositions. Donc il n'y a aucune autonomie. Donc c'est quelque chose de dépendant. Il me semble que c'est deux axes pour penser deux choses différentes. Disons la part non consciente de l'individu qui est davantage comprise avec le langage de la détermination, et puis la façon dont peut se construire aussi une autonomie de l'individu, bon, à travers des compétences. Bon, de ce point de vue que nous dit toujours sur le livre de Yasmina Reza, L'aube, le soir, la nuit, là, on voit une pluralité de la personne de Nicolas Sarkozy qui est beaucoup plus large que le gauchistement correct, c'est-à-dire la diabolisation de Sarkozy comme étant porteur que de dispositions maléfiques. Donc une sensibilité par moment enfantisme, un bougisme impatient, d'ailleurs plus un bougisme qu'un cynisme, c'est-à-dire plus pris par les situations que maîtrisant les situations, c'est-à-dire au sens où le cynisme serait une maîtrise des différentes situations autour d'un axe stratégique commun. Des fois même des points d'ironie elle garde lui-même, mais d'autres éléments, vantard, vanité, égocentré à l'extrême, démagogie, etc. Avec un élément sans doute commun, si on cherche les éléments transversaux, donc les éléments d'unité, on a l'impression à travers le livre qu'à travers des situations très diverses, hein, ça peut être des situations publiques et des situations privées, ça peut être des situations avec des amis ou des situations avec des proches politiques, etc., donc dans le livre qui sont balayés, donc des situations qui obéissent à des logiques diverses, ce qui apparaît souvent tendanciellement transversal, même si ce n'est pas forcément présent dans toutes les situations, c'est l'ambition, l'appétit de pouvoir, qui a l'air un élément transversal chez Sarkozy, assez fort pour être présent dans beaucoup de situations. Bon, dans beaucoup de situations, peut-être pas toutes, mais dans beaucoup de situations. Donc ça, c'est le deuxième axe qui nous fait rentrer aussi sur ce que nous apportent les débats des sociologies contemporaines. Le troisième axe, et dernier axe qui est apporté par le livre, c'est autour de ce que deux axes de l'analyse aussi de Pierre Bourdieu, mais pas seulement, de ce que Pierre Bourdieu appelle la lutte des classements sociaux, et aussi la logique de professionnalisation politique qui n'a pas été abordée par Bourdieu, qui est bien antérieurement avec des sociologues comme Max Weber et Roberto Michels. C'est quoi la lutte des classements sociaux? C'est cette idée de Bourdieu que la lutte des classes, une de ses composantes, c'est la lutte de définition autour de comment on classe. Par exemple, les marxistes ont souvent classé les populations en deux classes, bourgeoisie, prolétariat, pour faire simple. À la fin des années 70, Giscard fait un livre, Deux Français sur trois, où il explique qu'il n'y en a pas deux classes, mais trois. Ce sera un schéma qui sera repris quelques années plus tard par François de Closet dans un livre qui aura beaucoup de succès, toujours plus. Là, il y a trois classes et il y a quelques riches, quelques pauvres et puis une immense classe moyenne. Bon. Ben, ce que nous dit Bourdieu, c'est que la lutte entre les classes dans une société à un moment donné, il y a une composante de cette lutte, c'est comment on définit les classements. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a deux classes, est-ce qu'il y en a trois, est-ce qu'il y a une immense classe moyenne, est-ce qu'il y a beaucoup de riches, est-ce qu'il y a beaucoup de pauvres, etc., etc. Donc, c'est une dimension, la lutte des classements sociaux, de la lutte des classes. Et notamment, c'est l'idée que dans une société, il y a toujours des luttes symboliques, donc des luttes de définition, autour de comment on définit le clivage pertinent. Quel est le clivage pertinent de la société? Le deuxième point, professionnalisation politique, c'est cette idée que pour que les groupes et les classes existent, il faut aussi des porte-paroles pour porter les intérêts et l'existence du groupe dans l'espace public, et que ces porte-paroles dans nos démocraties dites libérales, on subit une logique, disons, longue de professionnalisation, c'est-à-dire peu à peu, ces porte-paroles c'est devenu un métier. Bon. Alors, à travers ce double schéma, lutte des classements sociaux et professionnalisation politique, on peut analyser, d'éclairer une partie des confrontations dans la société française entre les années 80 et les années 2000, autour de ce que j'appelle le clivage de la justice sociale et le clivage national-racial. Clivage de la justice sociale, c'est quoi? C'est les gens qui se représentent les choses avec l'idée que ce qui compte, c'est la répartition des ressources entre les personnes. Ça peut être patron ouvrier, ça peut être riche pauvre. C'était un type de clivage dominant pour se représenter la société française pendant longtemps, travaillé par la gauche, aussi bien dans ses courants, d'ailleurs marxisants, que ses courants chrétiens sociaux, qui étaient une composante forte, mais qui a été aussi, d'une certaine façon, pendant longtemps, intégré par la droite gaulliste, intégré cette représentation en termes de répartition de ressources. Bon. C'était le clivage pertinent à la société. Ce clivage a reculé pour différentes raisons, qui touche aussi bien à ceux qui portaient les clivages, comme des partis politiques, le Parti communiste, les syndicats, la CGT, etc., que des transformations même des classes populaires, des transformations idéologiques aussi. Donc ce clivage a reculé. Et face à ça, avec le recul de ce clivage, est monté un nouveau clivage à partir du début des années 80, que j'appelle le clivage national-racial, qui était porté dans le champ politique au départ, en tout cas à partir d'une manière nette, à partir de 83, par le Front National, et pour qui ce n'était pas riche-pauvre ou patron-ouvrier le clivage central, c'était français-étranger. C'est ça qui était le clivage pertinent, le bon classement. Et je dis national-racial parce que il y a français et étrangers, donc on peut penser que c'est les nationaux et les étrangers. Mais en même temps, dans ce clivage, souvent, des gens qui sont juridiquement français sont considérés comme étrangers. Donc il y a une assimilation entre national et apparence ethnique, bon, qui fait qu'il y a une superposition. C'est pour ça que je l'ai appelé national-racial. On peut analyser le sarkozysme comme un héritier de la progression du clivage national-racial par rapport au clivage de la justice sociale, notamment dans l'assimilation entre insécurité et immigration, dans un discours, disons, qu'on peut appeler sécuritaire ethnicisé, qui parfois, où l'ethnicisation est tellement évidente qu'elle n'a pas besoin de se dire. C'est-à-dire, on dit les jeunes, et tout de suite on pense les jeunes délinquants arabes, donc dans un discours. Donc il y a des tas d'éléments de la phrase qui n'ont plus besoin d'être dites, parce que l'évidence a été constituée. Il a hérité de ça, il a hérité en faisant un usage soft et politicien, disons, pour gagner les élections. Donc sous une forme moins stigmatisée que celle du Front National. C'est ce qu'on voit dans le livre, parce qu'il y a un passage très intéressant, qui a d'autant plus de résonance depuis avec la politique de chiffres sur l'expulsion des sans-papiers, le test ADN, etc. Devant des partisans, quelques temps avant le premier tour, Sarkozy explique: si on n'avait pas l'identité nationale, on serait derrière Ségolène. Si je suis à 30%, c'est qu'on a les électeurs Le Pen. Si les électeurs Le Pen me quittent, on plonge. Donc c'est ça qu'il dit exactement. C'est-à-dire qu'il hérite d'un état du clivage. Il aurait pu tenir... C'est pas le problème de savoir si Sarkozy est fasciste ou raciste. Ça n'a aucun sens. Et sans doute, il est sincèrement antiraciste. C'est qu'il arrive à un moment donné... Il est dans une logique de professionnalisation politique pour se faire élire. Il va utiliser l'état où on en est de la lutte des clivages. Et donc, il va l'utiliser de manière politicienne. Bon. C'est ce que j'appelle aussi une xénophobie subliminale. Parce qu'elle n'a pas besoin de se dire complètement xénophobe, mais en même temps, elle va chercher chez les gens des éléments xénophobes sans avoir besoin de les expliciter complètement. Et là, il y a un usage stratégique de ça, puisque c'est conscient, là. C'est dit comme ça. C'est à peu près 2-3 semaines avant le premier tour, c'est dit comme ça. Donc, c'est explicitement pensé de manière consciente. Bon. Donc là, on a une autre entrée dans les nouvelles sociologies, les luttes des classements sociaux, la professionnalisation politique. C'est-à-dire, le champ politique, on use de ressources pour se faire élire, pour obtenir une position de pouvoir dans le champ politique, et on va utiliser des éléments qui sont l'état aussi des luttes sociales et des luttes symboliques dans la société. Et là, on a un usage de la thématique de l'identité nationale, disons, dans la logique nationale raciale. Donc voilà une première illustration. Hein. Je me suis dit que c'était... Ça pouvait davantage parler en prenant un exemple comme ça, surtout que ce n'est pas le traitement dont a fait l'objet le livre pour l'instant. À travers trois éléments, en rentrant dans ce livre, on arrive à rentrer dans trois dimensions des apports des nouvelles sociologies dans la pensée critique. La deuxième illustration, c'est plus général, c'est un de mes dadas, c'est l'apport de ces nouvelles sociologies par rapport à... une des formes les plus populaires et les plus superficielles de la critique sociale, c'est-à-dire le complot. C'est-à-dire cette idée qui est très forte dans la critique sociale ordinaire, que la réalité sociale se produit avant tout à travers les intentions cachées de quelques élites qui produisent cette réalité de manière cachée, concertée. C'est une vision qui est très forte dans deux secteurs, notamment dans les courants critiques de la gauche, dans la critique des médias et dans la critique des relations internationales. Que ce soit la critique de la politique américaine, mais globalement la façon dont sont pensées les relations internationales. J'ai souvent insisté jusqu'à présent dans la critique des médias, parce que c'est sans doute le plus simple. Mais la critique des relations internationales est intéressante. Ce qui est dominant dans les courants dominants des relations internationales, c'est-à-dire dans la presse et dans les courants critiques, c'est-à-dire dans aussi bien chez Chomsky, chez Ramonet, etc., dans les courants critiques, c'est ce que un grand politiste américain spécialiste des relations internationales qui a renouvelé les relations internationales, qui s'appelle Graham Allison, dans son livre Essence of Decision, qui est une analyse de la crise des missiles de Cuba, c'est le modèle 1, c'est-à-dire le modèle du choix rationnel appliqué aux États. C'est-à-dire que les entités collectives, comme les États, sont pris comme des individus. Ils ont des intentions, ils ont des volontés, etc. C'est comme un individu, et un individu rationnel. C'est-à-dire c'est le choix rationnel appliqué à des États. On va dire, l'URSS a décidé que, les États-Unis ont répondu que, etc. Dans les courants critiques ou dans les courants dominants, c'est le schéma dominant, en fait, toujours. Aujourd'hui. Et donc la pensée critique ne se distingue pas tellement. Elle se distingue par le contenu, c'est-à-dire qu'on va dire que d'un côté on peut dire que les Américains sont réalistes et de l'autre on va dire qu'ils sont méchants, mais le schéma d'analyse est à peu près proche. Donc c'est. Or, les sociologies contemporaines nous orientent vers d'autres directions. Alors par exemple, la notion d'interdépendance chez Norbert Elias, qui est sans doute un des pionniers, il est plus ancien, Norbert Elias, mais c'est un des pionniers de ces nouvelles sociologies, dont la discussion de ces travaux ont joué un rôle important en France dans le renouvellement de la sociologie. Elias parle d'interdépendance, c'est-à-dire la façon dont... C'est très marquant, par exemple, dans son livre qui s'appelle « La société de cour » sur le rôle du roi dans la cour, notamment Louis XIV. C'est que même l'acteur le plus doté en ressources, celui qui a le plus de marge de manœuvre, le roi, est pris dans des contraintes d'interdépendance. C'est-à-dire qu'il est dépendant de l'étiquette, il est dépendant des rapports entre les différents groupes, etc., qui le contraint à faire des choses qu'il ne ferait pas spontanément ou volontairement. Et donc même celui qui a le plus de marge de possibilité est toujours contraint parce qu'il est pris dans des systèmes d'interdépendance avec les autres qui font exister sa fonction aussi. Et donc il n'est pas tout puissant. Même le plus doté en ressources n'est pas tout puissant. Notion d'interdépendance. Là, il y a une notion qui est utilisée par j'explicite un peu par un sociologue britannique, Anthony Giddens, qui est la notion de conséquence non intentionnelle de l'action, qui est une idée ancienne parce qu'on la trouve déjà à l'état implicite chez Machiavel, et puis elle est amorcée aussi chez Max Weber. Elle a souvent pris une forme une forme extrême avec la théorie des effets pervers, qui est beaucoup privilégiée, qui pointe des questions justes, hein, mais qui est beaucoup privilégiée par les sociologues libéraux comme Raymond Boudon. L'effet pervers, c'est quand l'intention qu'on poursuit aboutit à l'inverse de ce qu'on recherchait. Bon. Ce qui peut, si on en fait une théorie systématique, c'est-à-dire que si je veux développer la justice sociale par l'État social, eh ben, je produis la pauvreté, donc il vaut mieux pas d'État social. Bon. Albert Hirschman a fait une critique, disons, de la systématisation de ce schéma. Mais disons que c'est des éléments qui existent. Mais c'est une des catégories des conséquences non intentionnelles de l'action. C'est cette idée donc, qu'on trouve chez Weber et chez Giddens, qui est que, en fait, dans une société, cette société, elle rencontre des intentions différentes. Chacun a des intentions. C'est une partie de la vie sociale. C'est pas la seule chose. Ces intentions peuvent être raccordées à d'autres choses, à un inconscient social, etc. Mais il y a des intentions, bon, plus ou moins explicites. ces intentions, elles vont dans des directions différentes. Elles se rencontrent. La rencontre des intentions donne un résultat qui n'a été prévu par personne en général, qui ne le produit de la volonté de personne. Simplement ça. Les sociologues rajouteraient que ça se fait en plus dans des circonstances historiques particulières qui vont porter plus ou moins les intentions dans une dynamique ou dans une autre. Bon. Et donc, là aussi, l'idée de conséquence non intentionnelle de l'action, ça veut dire qu'il y a des chaînes, des dynamiques d'action qui échappent à l'intention de tel ou tel acteur. L'exemple pris par Guidance est simple, hein, c'est quelqu'un qui allume la lumière en rentrant chez lui, il découvre un cambrioleur, le cambrioleur est affolé, il saute par la fenêtre, il est poursuivi par la police, il est arrêté, il est mis en prison, et alors on pourrait dire j'ai appuyé sur la lumière et j'ai produit tout ça. Ce serait ça le complot. J'ai fait un complot et il est en prison. On peut prolonger la chaîne, c'est-à-dire on peut dire il est violé en prison, il a le sida, il va mourir du sida, etc. Donc tout ça, au début, il y a simplement allumé sur la lumière. Bon, c'est ça, il y a des chaînes d'action et de réaction qui échappent à l'action initiale, à l'intention initiale. Bon. L'idée de conséquence non intentionnelle de l'action, l'idée d'interdépendance sont très proches. La différence, c'est que interdépendance, c'est plus systématique, c'est dans une vision plus systémique des choses. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a des types de relations qui systématiquement relient les uns aux autres, généralement. Par exemple, le roi et sa cour, ou les patrons et les ouvriers. Tandis que l'idée de conséquence non intentionnelle de l'action, c'est plus ouvert sur l'aléatoire, sur des dynamiques qui ne font pas partie nécessairement d'un système. Bon. Donc, il y a des éléments communs, mais ça va dans des directions différentes. Évidemment, il y a aussi, on pourrait faire appel par rapport à cette thématique du complot aux catégories de Bourdieu, comme Champ et Habitus. On a déjà vu Champ. Champ, c'est l'idée que une société est divisée en différents espaces. C'est-à-dire que pour les marxistes, tendanciellement, une société, il y a un haut et un bas. Pour les marxistes, c'est pas chez Marx. Avec ce qu'on appelle l'infrastructure et la superstructure, c'est-à-dire les éléments économiques de la société déterminent, en dernière instance en tout cas, des éléments qui sont le droit, la politique, les idées, la culture, etc. Il y a un haut et un bas, mais il y a un seul espace social. Chez Bourdieu, il y a dans une même société plusieurs sociétés. Le champ politique a des règles différentes du champ économique, du champ culturel, du champ journalistique, du champ sportif, du champ religieux. Bon. Et donc, il y a des règles, il y a des rapports de domination qui sont spécifiques, et donc il y a une autonomie de ces différents espaces. Bon. Et donc, si on revient à l'idée du complot, ce que font les individus dépend beaucoup des dynamiques de concurrence à l'intérieur du champ, qui ne sont pas simplement des questions de volonté, mais qui sont des choses portées par la structure du champ lui-même. Donc, la notion d'habitus est un complément à la notion de champ. Pour Bourdieu, c'est les deux concepts principaux. C'est la façon dont les individus intériorisent à travers donc les ordres d'apprentissage, leur socialisation, des dispositions à agir, à penser, à se comporter d'une certaine façon, et qui est largement de l'ordre d'un inconscient social. Là, c'est encore plus éloigné de l'idée de conspiration, parce que ce qui agit les individus, et d'ailleurs Bourdieu ne parle pas d'acteurs, mais d'agents, c'est des gens qui sont agis plus qu'ils n'agissent d'une certaine façon. Ils sont agis de l'intérieur par un inconscient social. Les gens qui sont agis ainsi, et on ne peut pas penser que la question de l'intention, de la concertation consciente soit l'élément central dans les processus de domination. Ce qui fait dire à Bourdieu qu'une société, c'est une orchestration sans chef d'orchestre. Il y a bien des éléments qui vont dans le même sens et qui reproduisent des rapports de domination, mais il n'y a pas de chef d'orchestre qui manipule. Enfin, dernier élément, j'ai dit tout à l'heure un peu, disposition-compétence. Dans le post-Bourdieu, il y a des gens comme Lahire qui vont insister sur le fait qu'un individu est composé d'une pluralité de dispositions, et d'autres comme la sociologie pragmatique de Boltanski et Thévenot qui vont insister sur la variété des compétences des individus. Et là, avec disposition et compétence, on a des éléments qui ne sont pas simplement de l'ordre de la toute-puissance de la conspiration. Les dispositions, ça renvoie à un inconscient social. Et les compétences à des apprentissages de savoir-faire très particuliers. Et qui fait que c'est pas parce qu'on a un savoir-faire dans un domaine qu'on a un savoir-faire dans un autre domaine. C'est la double face d'ailleurs de. Giddens résume bien ça en disant que les structures sociales sont à la fois contraignantes et habilitantes. Contraignantes parce qu'elles contraignent les individus, notamment par un inconscient social, habilitantes parce qu'elles les rendent capables de faire des choses. Elles ont des compétences. Et il est important de prendre en compte la double dimension de caractère contraignant et habilitant des structures sociales. Ça nous contraint d'une certaine façon à l'intérieur et à l'extérieur et ça nous rend capable de. Bon. C'est ce que. Il prend l'exemple de la langue, par exemple. Si je parle le français simplement, à la fois je suis contraint parce que par la socialisation je pense d'une certaine manière avec certains mots, etc. Je n'ai pas accès à d'autres visions du monde qui me permettraient le chinois, par exemple, ou le russe. Mais en même temps, ça me rend capable de des tas de choses, à faire des choses et à manipuler un langage. Contraignant, habilitant. Disposition, compétence. Voilà. C'est une deuxième façon dont les nouvelles sociologies permettent de complexifier et d'affiner des éléments par rapport à une critique sociale rudimentaire, simpliste, superficielle, en termes de complot, qu'on peut, qui est très forte à la fois dans l'analyse des médias et dans l'analyse des relations internationales. Puis je terminerai sur la postface. Il n'y avait pas de postface au départ et j'ai voulu faire un point un peu sur l'état de la sociologie. Dans la version de 1995 des nouvelles sociologies, il y avait l'idée plutôt d'un optimisme par rapport à la dynamique. Et là, j'équilibre davantage optimisme et pessimisme parce que je vois aussi des effets négatifs dans l'évolution de la sociologie. D'abord par rapport au mouvement de la professionnalisation sociologique. Il y a un mouvement, comme partout, de spécialisation et de professionnalisation. De plus en plus, c'est un métier avec des règles plus contraignantes et des types de savoir-faire contraignants. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des gens qui vont être sociologues vont faire le cursus avec la thèse et vont passer par l'université. Il y a 20 ans, il y avait des gens qui avaient d'autres cursus et qui rentraient dans la sociologie à 40 ans, par exemple, en ayant fait du travail social ou en ayant été enseignant ou d'autres activités. Maintenant, c'est de plus en plus, avec la professionnalisation et la spécialisation, c'est de plus en plus difficile. Ça n'existe presque plus. Donc, il y a des cursus professionnalisants qui donnent un profil de plus en plus commun, comme un métier. Cette professionnalisation, elle a des éléments positifs. C'est-à-dire, les travaux sont plus rigoureux. Dans le sens où, aujourd'hui, une thèse, celle qu'elle se fabrique, elle obéit à des contraintes plus rigoureuses par rapport à des thèses d'il y a 20 ou 40 ans. C'est-à-dire, la moyenne des thèses. Parlons en moyenne. Parce qu'on suit des règles, etc., qu'on ne suivait pas nécessairement. Par exemple, de plus en plus, aujourd'hui, une thèse de sociologie doit y avoir à la fois de la théorie et un terrain. Ce n'était pas toujours le cas avant. Donc, il y a des éléments de rigueur, des éléments positifs. Mais il y a des éléments aussi négatifs de cette rigueur. Il y a une hyperspécialisation qui fait que les choses sont de plus en plus segmentées. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des spécialistes de l'action collective qui ne parleront jamais aux sociologues de la famille, qui ne parleront eux-mêmes jamais aux sociologues de l'éducation, etc. etc. Bon. Et donc, on se segmente de plus en plus dans des champs spécialisés. Et quand on reconquiert des nouvelles façons de voir contre cette spécialisation, souvent, je pense aux travaux qu'ont fait Stéphane Beau et Michel Pielloux sur la condition ouvrière, dans leur travail sur l'usine Peugeot-Sechaux au départ, ça a été l'idée de mettre ensemble des choses qui étaient séparées par cette spécialisation. C'est-à-dire sociologie du travail, on s'intéresse à l'entreprise, sociologie de l'école, sociologie de la famille. Et on peut dire même sociologie du syndicalisme. Ces quatre éléments étaient séparés et vont être associés pour produire un éclairage nouveau contre l'hyperspécialisation, justement. Les sciences sociales se sont autonomisées par rapport à la philosophie historiquement, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire, elles ont construit un registre propre de rigueur, de scientificité, pour interroger le monde social. Avec l'idée que philosophie et sciences sociales, ce n'est pas exactement la même chose. Les sciences sociales, ça passe par la production d'une connaissance empirique d'un morceau de la réalité, qui passe par une enquête. Ce n'est pas le cas nécessairement par la philosophie. Donc cette autonomisation a été une bonne chose. Un registre autonome de savoir. Aujourd'hui, cette séparation est tendue un peu plus encore, qui fait qu'il y a souvent une hostilité même de les sciences sociales et de la sociologie vis-à-vis de la philosophie. une cassure qui est une sorte de rejet et qui perd ce que pourrait apporter le dialogue avec la philosophie, notamment par rapport à l'hyperspécialisation des ressources de globalisation. Pour avoir une vision plus globale ou pour se poser un type de question plus globale qui n'est plus posée dans le cadre d'une hyperspécialisation. Ce qui pose le problème du rapport au global, c'est-à-dire que les sciences sociales ont heureusement abandonné l'idée du total, c'est-à-dire qu'on pouvait totaliser autour d'un savoir la connaissance d'une société, le total, c'est... mais peu à peu, avec un émiettement, elle perd une vision globale, un cadre global de ses observations. Et le global, ce n'est pas exactement comme le total. C'est-à-dire on peut penser le global sans nécessairement avoir la prétention à la totalisation. Enfin, il y a la professionnalisation, parce qu'il y a des profils professionnels type, conduit à un certain conformisme des références, des objets, etc. C'est-à-dire on prend de moins en moins d'objets, de références, etc. Je sais que, il y a quelques années, j'avais proposé à des étudiants qui partaient à Sciences Po Paris faire des thèses, des sujets du type autour de la transformation de l'identité, comparer deux terrains qui semblent avoir rien à voir. C'était les transsexuels et les transfuges en politique. Les gens comme Brice Lalonde, les transfuges en politique qui passent de droite à gauche, etc. Et puis les transsexuels. Et comparer deux populations, voir qu'est-ce que c'est que la transformation de l'identité. C'est un type de terrain qui me semble original, qui pose des questions, disons, analogues, et avec des différences, bien sûr, parce que c'est deux choses différentes, mais évidemment, c'est des choses qui sont récusées dans l'académie. Bon. Comme j'avais proposé aussi, mais les secteurs académiques ont récusé ça, de travailler en comparaison sur les gens qui quittent des partis politiques et les ruptures sentimentales, avec deux populations différentes, et pour voir les rapports et les différences. Bon. Ben, ce type d'objet est peu acceptable dans la conception conformiste des choses aujourd'hui, dans ce que sont les objets, etc., les plus valorisés, et c'est lié aussi à la professionnalisation, le déficit d'originalité. Donc à la fois des apports de cette professionnalisation, aussi des effets négatifs. Le deuxième élément, c'est le rapport à la politique. Et ça a aussi des rapports avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un acquis, c'est l'autonomisation des problématisations scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des modes de connaissance de la réalité avec des contraintes, des règles plus ou moins rigoureuses. C'est un acquis par rapport à un état antérieur. Moi, quand j'ai commencé à être étudiant à la fin des années 70, c'était encore un fort poids du marxisme à l'université où quand on était marxiste, on était censé avoir tout. C'est-à-dire, on rentrait dans un parti, et donc on avait le parti, le programme, la philosophie, la science, tout ensemble. Et donc par exemple, comme on avait le meilleur parti, on avait nécessairement la meilleure philosophie, la meilleure science, puisque tout était donné tout ensemble. Bon. Et donc l'autonomisation, c'est un gain par rapport à ça, parce qu'on dit, mais non... Les règles de la philosophie, ce n'est pas exactement les règles de la sociologie. Et c'est pas un jugement politique, ce n'est pas exactement la même chose qu'un jugement scientifique. Bon. Et donc, il y a un acquis de l'autonomie des problématisations scientifiques par rapport notamment à la politique. Mais il y a le bâton est tordu dans le sens inverse. C'est autour du thème qui est beaucoup plus compliqué chez Max Weber, de la neutralité axiologique, c'est-à-dire de la neutralité du scientifique par rapport au jugement de valeur. Mais chez Max Weber, c'est plus compliqué. D'ailleurs, il utilise souvent le terme entre guillemets. C'est constitué peu à peu un scientisme qui passe de l'autonomie à l'idée de l'indépendance de la science. Donc, il y a une autonomie, ça ne veut pas dire qu'il y a une indépendance. S'il y a une autonomie sans indépendance, ça veut dire que toujours dans la science, dans toute science, il y a des présupposés. C'est-à-dire que même dans la façon de parler, si j'utilise le mot individu ou si j'utilise le mot classe dans une enquête, je ne vais pas avoir le même type d'enquête. Si je dis que les individus sont dotés d'habitude, si je dis qu'ils sont dotés d'intérêt, si je dis qu'ils sont dotés de désir, si je dis qu'ils sont dotés d'identité, je n'ai pas la même vision des humains exactement. Donc j'ai souvent, à même à partir du vocabulaire de base que j'utilise, des présupposés. Des présupposés qu'on va appeler anthropologiques, c'est-à-dire dans la conception de ce que c'est que la condition humaine, des présupposés éthiques, dans ce qui va être valorisé, dévalorisé, des présupposés politiques, dans la façon dont on va concevoir plus ou moins positivement ou négativement le cadre de telle ou telle cité. Bon. Donc il y a des présupposés en amont, Et en aval, il y a des usages sociaux des énoncés scientifiques. Et donc, il y a une autonomie, mais il n'y a pas une indépendance de la science. Et donc, le mouvement dominant aujourd'hui dans les sciences sociales, c'est le scientisme, c'est-à-dire l'idée de faire de cette neutralité une indépendance. C'est théorisé aujourd'hui le plus par une sociologue qui a fait sa thèse avec Pierre Bourdieu, qui vient de sortir un livre critique sur Bourdieu, qui a participé à un moment donné au même groupe de recherche que moi, le groupe de Boltanski et Thévenot, qui est Nathalie Hennich, celle qui théorise le plus aujourd'hui l'idée d'une neutralité complète et qui accuse justement Bourdieu d'être engagé. Voilà. Donc il y a deux tendances. Il y a la tendance scientiste, c'est sans doute la plus forte, et qui oublie de penser les présupposés. Et en oubliant de penser les présupposés, elle fait une erreur scientifique aussi. C'est-à-dire qu'elle ne se permet pas de contrôler les effets de ses présupposés sur son travail scientifique. Et donc elle fait aussi, pas simplement une faute politique, mais elle fait une faute scientifique. Deuxièmement, il y a une deuxième catégorie qui est moins forte, mais qui est quand même très présente, et c'est sans doute les sociologues qu'on voit le plus souvent dans les médias quand on dit il y a des débats de société. Bon. C'est ce que j'appelle le sociologue technicien, réparateur. Bon. C'est-à-dire, il y a un problème social, il va réparer un bout, il va montrer qu'il y a un bout. Alors, c'est sur un bout, hein, sur la famille, sur l'école, sur un bout d'école, etc. C'est le technicien réparateur local de l'ordre social. C'est très important, par exemple, dans la reconversion de ce qui a été la fondation Saint-Simon, qui était un des groupes qui a beaucoup fait pour le succès du néolibéralisme dans la société française, et notamment à gauche, qui était dirigé par François Furet et Pierre-Rosan Vallon, et Alain Minc, c'était le trio qui dirigeait, et qui s'est transformé depuis quelque temps avec une version qui apparaît plus gauche, mais qui n'est pas si plus gauche que ça, qui s'appelle la République des idées. Donc dans la République des idées, il y a des choses diverses, il y a même des gens intéressants comme Robert Castel, mais il y a beaucoup de réparateurs sociaux de ce type. Le problème des réparateurs sociaux, c'est qu'ils voient un petit bout de la société et ne le restituent pas dans le global. Et donc souvent, il est amené d'une certaine façon à reproduire l'ordre social global en ne posant plus la question d'un global, puisqu'il n'est que dans l'articulation d'un petit bout de la société. Donc c'est les deux tendances sont sans doute les plus fortes, avec une plus grande force au courant scientiste. Et sans doute, à un moment donné, après 1995, quand il y a eu un certain engagement des intellectuels autour de la figure de Bourdieu, on a sans doute surestimé l'importance qu'avait le réengagement des intellectuels dans la vie politique, parce que finalement c'est resté assez faible. Et la figure scientiste est dominante toujours dans le milieu universitaire. Et dans celle qui est plus présente dans l'espace public, c'est quand même la figure du technicien plutôt que du sociologue engagé qui est présente. Enfin, dernier point que j'aborde dans cette postface, c'est un autre élément négatif, c'est une certaine homogénéisation du vocabulaire dans les sciences sociales. C'est particulièrement présent en sciences politiques, c'est assez présent aussi en sociologie. C'est la tendance hégémonique du vocabulaire de l'intérêt aujourd'hui. C'est-à-dire que des sociologues très divers utilisent de plus en plus la notion d'intérêt, et la notion d'intérêt devient sans doute le mot le plus utilisé dans les sciences sociales aujourd'hui. Avec des exceptions diverses, puisque des sociologues se référant à Bourdieu utilisent intérêt, des gens qui se réfèrent à la sociologie des organisations de Michel Crozier, au choix rationnel, à Raymond Boudon, etc. Mais au bout du compte, il y a énormément de gens qui utilisent intérêt, c'est comme si c'était la nouvelle théorie qui rend compte de tout. Et ça, ça renvoie à une certaine anthropologie, c'est-à-dire une certaine vision de l'humain, qui est surtout caractérisée par le calcul de ses intérêts, la recherche de ses intérêts. Chez les sociologues qui s'inspirent de Bourdieu, c'est la recherche inconsciente de ses intérêts. Chez les chercheurs rationnels, c'est la recherche consciente. Mais enfin, l'humanité serait caractérisée principalement par la quête de ses intérêts. Or, les travaux que j'ai pu faire, par exemple, à partir de la sociologie pragmatique sur la compassion, par exemple, montrent qu'il y a des catégories de relations qui sont autres que celles d'intérêt dans la vie sociale, qui sont tout à fait intéressantes, mais qu'écrasent tout à fait l'hégémonie du vocabulaire de l'intérêt. Voilà pour cette postface qui essaie d'examiner, dans l'état de la sociologie française, des éléments aussi négatifs. Alors, pour conclure, j'essaye de conclure sur deux éléments, c'est-à-dire que je pense à partir de ces éléments, d'identification de ces éléments négatifs, ce renouvellement réel qu'apporte les nouvelles sociologies à la pensée critique, on pourrait aller vers la recherche de nouveaux équilibres. C'est-à-dire, premier équilibre, c'est trouver un équilibre entre distanciation et engagement. C'est-à-dire que le fait qu'un sociologue est bien engagé dans la cité au sens où il est produit dans une cité, il a certaines évidences liées à cette société, aux groupes sociaux qu'il a traversés, au champ dont il est partie prenante, donc à son type de vocabulaire, aux représentations qu'il a, etc. Donc il a des présupposés qui font qu'il est pris dans la société. Il est engagé par la société avant même de s'engager dans la société. Et puis le travail scientifique, c'est aussi un travail de distanciation par rapport à cet engagement. Donc il y a un travail de distanciation, mais dans la prise en compte qu'il y a bien une insertion du sociologue dans la société, un engagement. Et donc il y a le problème de l'équilibre entre distanciation et engagement. Cet équilibre n'existait pas avec une certaine hégémonie du marxisme dans le milieu universitaire dans les années 70, parce qu'elle récusait la tension entre les deux, parce que tout était associé dans un tout. Mais cet équilibre n'existe pas aujourd'hui à partir du moment où on considère qu'il n'y a plus que la distanciation avec le scientisme. Deuxième équilibre, c'est l'équilibre entre rigueur et imagination, qui a des rapports avec le premier, mais pas... Un des grands sociologues américains, Wright Mills, a écrit un livre important dans les années 50 qui s'appelle « L'imagination sociologique » et il insiste sur deux éléments, justement, sur le fait que le sociologue a besoin d'un métier avec des règles d'un métier qui assure une certaine rigueur. Et en même temps, il doit permettre de se poser des tas de questions nouvelles, de renouveler le questionnement notamment. Notamment, Edmund pense qu'il doit faire appel à l'imaginaire aussi, aux formes littéraires, etc., pas simplement à la collection des faits, pour ouvrir le type de questionnement, pour ouvrir l'espace du pensable. On pourrait dire que Max Weber disait la même chose quand, dans ses essais sur la théorie de la science, il a une confrontation avec des collègues à lui parce qu'il défend l'idée de l'embauche d'un anarchiste comme professeur de droit. Pourquoi il défend cette position? Alors que lui est conservateur, hein, Max Weber. Pourquoi il défend cette position? Il dit quelqu'un qui nie complètement l'État, qui fait une critique radicale de l'État, peut nous dire dans la question du droit public des choses très intéressantes qui vont éclairer d'un jour nouveau l'objet par rapport aux juristes classiques. Et donc on aurait besoin d'un juriste anarchiste. Donc, parce que ça permet d'élargir l'espace du pensable sur le droit. Donc il y a besoin d'imagination. Donc le métier, il ouvre une certaine rigueur, mais il peut produire une certaine routinisation, et j'ai vu des éléments négatifs. Et donc il y a à trouver un nouvel équilibre entre rigueur et imagination dans le métier sociologique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour introduire cette présentation.